Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les trois dernières années, qui sont certainement celles où je vais au travail de plus en plus par culons, mais certains jours pas loin, eh ben, j'y retourne quand même. Et je me dis, écoute, non, ça va passer. Ça va passer. Là, il y a tout le conditionnement avec lequel j'ai grandi qui est... ma famille a connu pire. Ils ont eu des contextes d'emploi, de travail qui a été compliqué. Donc non, tu vas pas te plaindre. Allez, tu continues, quoi.
Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
Bonjour, je m'appelle Karine Monneron, j'étais journaliste reporter d'images et je suis aujourd'hui coach professionnelle, praticienne PNL et spécialisée dans ces moments ou changements de vie que l'on subit et que l'on peut largement dépasser.
On va commencer par parler du passé, de ton enfance. Donc est-ce que tu peux d'abord m'expliquer où est-ce que tu es née et me dire un petit peu de quel milieu tu viens?
Alors moi je suis née en Mayenne, dans le grand ouest de la France, juste avant la Bretagne. Je suis née dans une famille plutôt nombreuse, avec beaucoup, j'ai un grand frère, mais avec beaucoup d'oncles et tantes, de cousins, cousines, donc, et dans un milieu aussi plutôt rural ou ouvrier. Donc j'ai en tête des souvenirs plutôt vivants et très joyeux, avec des grandes tablées, des grandes réunions de famille où on se retrouve tous et qui rythment les années, qui rythment la vie. Et puis j'ai aussi souvenir d'un contexte familial où on est dans la ruralité ou dans un contexte ouvrier, et donc c'est pas forcément facile. Donc il y a une notion de courage, de dignité, de le travail se mérite, l'argent se mérite, et puis on doit aussi montrer une certaine image aussi de nous et rentrer un petit peu dans le rang parce que voilà, le contexte est parfois un peu compliqué, mais une famille nombreuses, vivantes et joyeuses. C'est plutôt comme ça que je la définirais aujourd'hui, oui.
Et justement, tu as commencé à me l'évoquer, que la famille d'où tu viens, il y avait quand même cette dureté de la ruralité. Et il y a certaines phrases parfois qui t'ont marqué quand tu étais petite et qui étaient parfois un peu lourdes à porter pour toi. Est-ce que tu peux être un peu plus précise là-dessus et m'expliquer
Ouais, donc dans ma famille, donc certains étaient agriculteurs, d'autres ouvriers, c'est vrai que ma sensibilité de petite fille, qui était en mode vraiment émerveillée par pas grand chose. Hein, donc moi, je sais que dans un contexte plutôt environnemental très nature, moi j'adorais notamment m'échapper dans les jardins ou champs derrière mes grands-parents. Et pour contempler toute cette jolie nature, être attentif aux sons, aux images. Et j'ai plein de ressentis encore dans la tête et dans le corps. Mais j'ai aussi des souvenirs de fais attention à ce que tu te dis ou tiens-toi bien. Cette notion de il faut faire attention en fait à l'image qu'on peut laisser. Parce que déjà, le quotidien n'est pas simple. Donc... Faisons attention à l'image que l'on peut avoir. Et puis avec ce contexte aussi où, comme la vie elle est compliquée, on a des emplois qui peuvent être plus ou moins besogneux. Il y a ce côté aussi, la vie elle est pas toujours facile. Et quasiment avec un ressenti, j'avais un ressenti un peu de fatalité. Bah, c'est comme ça, la vie, elle n'est pas forcément simple, mais c'est comme ça. Et puis, voilà, tiens-toi bien, ou faites pas trop de bruit, ou... avec vraiment ce ressenti de... Faut rester dans le moule, en fait, et ne pas faire trop de vagues. C'était mon ressenti de petite fille, et qui a perduré aussi encore quand j'étais adolescente, en fait. Il y a cette espèce de conditionnement qu'on peut trouver dans nos campagnes ou aussi en province et certainement aussi en région parisienne, hein, mais du poids du regard des autres au sein de la famille, mais même en dehors de la famille. Et avec ce ressenti qu'on peut vite être jugé pour ce qu'on est ou pour ce que l'on fait. Et donc il y a tous ces moments de vie qu'on partage ensemble, joyeux et très vivants. Et puis parfois il y a des petites phrases... que j'ai pas forcément en tête, mais ce ressenti, moi encore, avec mon ressenti de petite fille, voilà, il faut faire attention pour maintenir une image digne de soi et de notre famille, en fait, aussi.
Et eux, s'ils avaient ces petites réflexions, ces petits jugements, est-ce qu'ils avaient une façon de voir la vie qui était différente d'autres personnes ? Enfin, comment est-ce qu'eux, ils voyaient la vie ? Pourquoi est-ce qu'ils avaient ce type de réflexion ?
Mes grands-parents maternels comme paternels... n'ont pas eu une vie facile. Ils ont connu donc la guerre, comme toutes les personnes de leur génération, dans les campagnes, et puis à devoir aller pratiquer ou exercer des activités professionnelles qui sont dures, qui sont compliquées. Donc, avec vraiment cette notion, encore une fois, de courage, de dignité, du côté de ma maman, une famille nombreuse à nourrir. Donc, ça aussi, c'est pas simple au quotidien. Et puis, malgré tout, il y a ces moments de vie ensemble qu'ils partagent et qui sont joyeux, qui sont vivants. Mais il y a ce contexte autour qui est compliqué, qui est difficile. Et ça, on ne peut pas l'enlever, en fait. Et on ne peut pas leur enlever. Et donc, je crois qu'il y a vraiment ce besoin aussi, dans mon ressenti à moi, à l'époque, de montrer une image digne de ce qu'on est malgré tout. Bah oui, on a des petits moyens, bah oui, c'est compliqué, mais on se tient bien quand même, et puis on est attentif du coup au comportement des uns et des autres pour montrer aussi une image digne et respectée et respectable pour les autres, en fait, vis-à-vis des autres. Et ça, c'est quelque chose que je sentais comme étant assez présent, ouais.
Et tu me disais justement que ces petits jugements, etc., ça a été un petit peu plus dur encore à supporter au cours de ton adolescence, en partie parce que tes parents ont divorcé. Est-ce que tu peux m'expliquer ce passage et pourquoi est-ce que là, ça a été un petit peu plus dur, ces petites réflexions pour toi ?
Quand mes parents se séparent, évidemment, comme tout enfant, c'est jamais une période très facile à vivre, mais y compris aussi pour eux. Donc on est dans une période d'instabilité, de transition, où il y a tout à remettre en place pour retrouver justement cette stabilité émotionnelle, familiale, etc. Donc ça prend plus ou moins de temps. Et c'est vrai que c'est une période où là encore le poids du regard des autres, du contexte autour, familial ou même autour en fait, est pesant. Et pesant, les divorces ou le divorce ne se fait pas trop, ou en tout cas pas trop dans notre famille. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre de l'intérieur. Bah, déjà que ce n'est pas forcément une situation très agréable à vivre. Et puis en plus, il faut montrer encore bonne figure et ça ne se fait pas trop. Et c'est vrai que c'est, vu de mon ressenti à moi de petite fille ou d'ado, c'est pas simple en fait. Décidément, on peut pas continuer à être ou faire ou vivre ce qu'on a besoin de vivre sans être attentif à ce que vont penser les autres, sans être sous peine d'être un peu écarté ou jugé. Et c'est quelque chose moi pour lequel j'étais déjà sensible petite et que je le suis peut-être encore un peu plus pendant cette période de l'adolescence et qui va d'ailleurs me motiver encore plus pour me dire. Le poids du regard ou des jugements des autres, non-stop en fait. Et mes parents, en ce sens aussi, sont une vraie source pour moi de fierté parce que, oui, il y a ce cap de la séparation. Et malgré tout, l'un comme l'autre, ils assument aussi ce choix qui n'est pas simple dans tout ce qu'ils ont besoin de vivre et à continuer à faire valoir aussi leurs valeurs, ce qui est important pour eux, et puis à nous soutenir aussi dans ce qu'on est. Donc finalement, à leur manière, à travers tout ce qu'ils ont vécu, que ce soit mes grands-parents, à travers le poids du regard des autres, la peur qu'ils ont pu vivre, Et puis mes propres parents qui ont dû affirmer encore un peu plus bah, leur choix de vie. Tout ça, c'est autant de sources d'inspiration pour moi, dont je n'ai pas forcément conscience à ce moment-là, mais par ricochet, qui vont vraiment m'imprégner et m'inspirer plus que jamais dans ma vie future d'adulte après, en fait. Et je me rends compte à quel point, du coup, tout ce que je peux vivre comme étant à la fois joyeux, vivant dans cette famille, mais aussi parfois pesant, ce regard des autres, le poids du jugement, la conformité, faire attention, c'est exactement les ingrédients qui vont aussi nourrir ma vie d'adulte et mon développement, ma réalisation à moi d'individu, en fait.
Et tu as commencé à l'évoquer un petit peu avant, c'est que ces jugements, tu t'es un peu dit... Enfin, t'as eu une sorte d'esprit un peu revanchard de « bah non, moi je vais pas écouter ces jugements et je vais faire un petit peu ce que je veux ». Et toi, ce que tu voulais quand t'étais jeune, à un moment, c'est de devenir journaliste. Donc, est-ce que tu peux préciser un petit peu plus la naissance de « bah ça y est, là j'écoute plus les jugements, je vais faire ce que je veux ». Et aussi, comment est-ce que bah, le journalisme t'est venu à l'esprit à ce moment-là quand t'étais adolescente ?
En fait, depuis toute petite... mais de façon inconsciente, parce qu'on en a pas, on n'est pas en petit en train de se dire « Oh là, je suis en train de regarder le papillon et c'est génial de regarder un papillon dans le jardin ». Non, en fait, je regarde un papillon et je trouve ça hyper beau, hyper joli. Et puis, depuis toute petite, je suis d'une manière générale assez sensible à ce qui se passe autour de moi et assez sensible déjà à ce qui est beau, sans forcément du coup en avoir forcément conscience et à le verbaliser. Et quand je deviens, donc en étant adolescente, naturellement, je continue à être attirée par ce qui est beau autour de moi, mais pas forcément que de l'ordre de la nature ou des paysages, ce qui est beau aussi en l'homme. Je suis totalement attirée, captivée par des documentaires, des biographies. Ça me parle, je reçois une sensibilité, une profondeur et toutes ces personnes qui ont réalisé ce qu'elles avaient en elles, qui ont dépassé parfois des contextes qui étaient compliqués pour révéler vraiment la petite pépite qu'il y avait à l'intérieur d'elles. J'ai pas conscience à quel point c'est quelque chose qui va me porter encore une fois dans ma vie d'adulte, mais ça m'attire. Donc ces gens qui ont fait des choses absolument incroyables, ce qu'on est capable de faire et de voir sur cette planète Terre, tout ça je vais aller chercher dans des documentaires à la télé. Donc je suis beaucoup attirée par l'image, par les sons, à travers ce que je vais pouvoir lire. Et de fil en aiguille, je me rends compte à quel point j'ai besoin d'être témoin encore plus privilégié de tout ça, de m'en rapprocher. Et assez naturellement, en regardant tous ces reportages à la télé, j'arrête pas de me dire « mais en fait, c'est ça que je veux faire. Mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Je veux raconter l'histoire de tous ces hommes et toutes ces femmes avec leur parcours de vie, avec ce qu'elles ont eu de haut et de bas, mais qui a été merveilleux. Je veux aller au contact de cette nature. Je veux la voir, en fait. Je veux vraiment la vivre. » Et dans mon contexte familial, a priori, il n'y a pas d'équivalent, en fait. Je n'ai pas de référence. Je n'ai pas, j'ai pas de parents ou de proches qui ont pu être journalistes par le passé. Et donc, je me dis, bon, alors là, vraiment, ça va être... Si je fais ça, c'est vraiment sortir du cadre. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ce qui m'anime. Et plus le temps passe, et plus je vais... Et plus je vais visualiser, en fait, ce futur qui m'attend. Je vais me visualiser devenir journaliste. Je vais me visualiser en train de voyager, je vais me visualiser et ressentir les futures rencontres que je vais avoir humaines, qui vont être hyper riches. Je vais visualiser ma vie de famille. Et plus je la visualise, plus je me dis, mais yes, c'est exactement ça. Et puis si sur le chemin, eh bien, il y a des jugements, il y a le regard des autres, je m'en fiche en fait. Je vais y aller et j'y vais. Et en mode vraiment positivité à fond, méthode Coué, quels que soient les freins ou les avis contraires qu'il pourrait y avoir, c'est ça, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, ça vibre et c'est vers ça que je veux aller.
Et justement, quand tu dis que c'est vers ça que tu veux aller, c'est que tu vas te tracer une voie dans ta tête, c'est ce que tu m'avais expliqué, pour atteindre ton but. Alors, quelle est un petit peu cette voie jusqu'à ce que tu finisses finalement par devenir journaliste ?
Je ne vais jamais du coup arrêter de m'écouter. J'étais passionnée par l'histoire, mais l'histoire des hommes, des grands hommes. Donc naturellement, je vais faire une fac d'histoire, mais toujours dans l'optique de faire une école de journalisme derrière. Très vite aussi, et grâce aussi au soutien de mes parents et puis de mon beau-père qui a des relations en radio, très tôt, je vais faire des stages en radio. Donc à 14-15 ans, je me retrouve à animer un tout petit truc en radio, à Radio France Mayenne, à Laval. Et en fait, je me sens totalement à ma place. Je me rends compte que j'aime l'outil de la radio. J'aime être dans déjà ce relationnel avec les gens qui me racontent leurs histoires. C'est un tout petit truc pour ados, mais c'est génial. je découvre la presse écrite. Je fais quelques stages. Là, la solitude me pèse. Je sens que j'ai besoin d'un outil concret, image ou son, et puis aussi travailler en équipe. Et de fil en aiguille, donc je fais ces études d'histoire. Je lâche donc plus que jamais ce projet de devenir journaliste. Et j'entends parler aussi d'une télévision locale, donc je suis au Mans, et là je vais les voir aussi, les relations aidant sur place. Et en fait, je peux obtenir finalement aussi un stage, et puis on me dit qu'une alternance est possible, et là en fait c'est bingo, c'est ok, donc j'ai plus qu'à trouver une école, je trouve une école qui propose l'alternance, et puis en fait ça y est, de fil en aiguille, je suis dedans. Mais pendant tout ce périple, je ne lâche jamais mon objectif. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et quand je découvre enfin la télé, l'image, là c'est une révélation et c'est une certitude. J'aime le pouvoir de l'image. J'aime ce qu'elle a à nous raconter, à nous décrire. Je me sens totalement à ma place. Et là, je sais à ce moment-là que je suis au contact de ce qui va être beau autour de moi. Je vais pouvoir le voir, je vais pouvoir le capter, je vais pouvoir le raconter à ma manière. Et puis je vais pouvoir aussi aller capter tous ces regards de ces gens que je vais pouvoir côtoyer demain sur le terrain en fait. Donc la télé est une évidence, c'est une révélation et c'est une évidence, ouais.
Et est-ce que tu avais un objectif précis à atteindre dans le journalisme à ce moment-là, un poste, quelque chose à filmer, je ne sais pas.
C'est vrai que j'avais été tellement nourrie à des documentaires quand j'étais ado que pourquoi pas en effet des longs formats. Et puis en fait, très vite dans cette télé locale, je me retrouve à faire du news, à être sur le local. Et cette diversité en fait me plaît totalement. Et je me rends compte à quel point, mais depuis toujours, en fait, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre, d'être au contact d'une diversité de populations, de gens différents, avec justement des challenges différents. Par quoi ils sont passés? Raconte-moi ton histoire. Finalement, le news me convient totalement. Mais par contre, je me sens aussi très vite frustrée par le news local. J'ai besoin de me dire qu'à tout moment, je peux partir loin. Où je peux partir sur un événement d'une grande ampleur, comme un tout petit, hein. C'est pas une histoire de « je veux que du grand ». Non, non, je veux cette diversité, je veux pouvoir avoir cette diversité. Être autant sur le portrait de la voisine qui est boulangère que, pourquoi pas le président de la République. Être sur ces extrêmes-là, parce que j'ai besoin d'aller capter toute la diversité, la richesse que représente à la fois l'actualité et puis à la fois la nature humaine, en fait. Et ça, c'est ce que permet plus, du coup, un média national.
Et le média national, tu vas finir par y rentrer cours de ta carrière. Donc justement, on va y arriver. Donc tu entres dans cette rédaction. Déjà, comment tu fais pour rentrer et quel est ton poste à ce moment-là quand tu rentres?
Je suis vraiment passée par toutes les strates au niveau du journalisme. Donc j'avais testé presse écrite, radio, puis télé évidence. Donc ça y est, cette fois, c'est ce média et j'y vais. Donc j'ai fait média local en province, puis après télé régionale. Donc j'ai la possibilité de travailler pour TV Braise, un média qui se crée en Bretagne. Et c'est une aventure génialissime parce qu'on est au début, on est dans une création, donc il y a absolument tout à faire. Donc humainement, on travaille avec une équipe où ensemble on construit un projet qui est humain et qui est très très chouette. Et puis il s'avère du coup que ce média régional appartient aussi à un groupe national. Et puis de fil en aiguille, finalement, je vais travailler pour un média national en région. Et puis de fil en aiguille, je vais finalement être mutée à Paris pour travailler sur ce média national. Ouais.
Et donc quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans ton métier ?
Mon quotidien, c'est donc... j'ai la chance dans ce média national de pouvoir choisir entre être une journaliste rédactrice qui anime les interviews, qui va poser sa voix sur le reportage, qui va cadrer l'interview, ou d'être journaliste, donc reporter d'image. Finalement, c'est le choix que je fais, même si je suis formée à la globalité, parce qu'encore une fois, j'ai une sensibilité avec l'image, il y a quelque chose que j'ai besoin de raconter avec l'image, et parce que naturellement, quel que soit l'endroit où je me situe, dans le cadre de mon travail ou en dehors, en fait, je passe mon temps à être en totale observation de ce qui se passe autour de moi. Donc l'image me parle et je fais le choix de rester aussi journaliste reporter d'image. Et mon quotidien, donc, c'est d'être sur tout terrain d'actualité, autant du social que de la santé, que de la politique, que sur du fait divers. Et donc de partir en équipe avec un preneur de son, un ou une journaliste rédacteur-rédactrice, et puis parfois aussi une quatrième personne, qui peut être un preneur de son ou un autre journaliste reporter d'image, en fonction de la densité ou de la difficulté de l'actualité. Et tous ensemble, on se retrouve à raconter l'histoire de ces personnes qui nous ouvrent leur cœur, en fait. Et quand je dis qu'ils nous ouvrent leur cœur, c'est une réalité, que ce soit encore une fois un personnage politique, un message à transmettre, ou la boulangère dont je parlais tout à l'heure, il y a un humain derrière qui, à un moment donné, si on prend le temps d'échanger avec lui, a quand même quelque chose à nous transmettre. Il y a ses valeurs, il y a son histoire, il y a sa vibration, il y a ses émotions. Et moi, à chaque fois, le pari, il est gagné quand, tous ensemble, avec nos talents respectifs, le son, la manière dont il a pu capter les silences, les bruits autour, le rédacteur, qui, à travers les questions pertinentes qui vont bien, vont permettre aussi d'aller creuser encore un peu plus, d'aller capter ce vrai message, moi aussi à travers l'image, le pari, il est gagné quand on rentre et qu'on a vraiment tous le ressenti qu'on a capté le vrai message de cette personne qui nous a fait confiance dans ce moment. Et puis à nous de le relayer au plus grand nombre, en fait.
Et là, t'es fière de toi, à ce moment-là, d'avoir un peu atteint ton objectif ?
Ah oui, je suis à ma place. Au-delà de la fierté, en fait, ça se joue sur deux niveaux. Je me sens, moi, profondément à ma place dans ce que je suis en train de vivre. Et la fierté, elle n'est pas forcément pour moi. Je ressens la fierté de mes parents et de ma famille. Donc du coup, c'est à ce niveau-là que ça se joue aussi. En fait, je suis aussi contente pour eux parce que c'est comme s'il y avait une espèce de reconnaissance de tous leurs efforts qu'ils ont fournis, parce qu'ils m'ont toujours soutenue dans ce projet, malgré leurs difficultés financières, parce que ce n'était pas toujours évident, malgré ce contexte où, a priori, il n'y avait pas d'équivalent avant moi. Donc il a fallu y aller. Et donc oui, je suis très contente pour moi d'être à ma place, et je suis aussi contente pour ce que ça peut représenter aussi pour mes parents. Ouais.
Et tu m'avais expliqué que les actualités que tu aimais beaucoup retranscrire, c'était, alors je vais le dire avec mes mots, mais tu pourras le dire avec les tiens, celles où la vie des gens s'arrêtait alors qu'ils étaient en pleine expansion, qu'ils allaient devenir eux-mêmes, etc. Et c'était un petit peu un parallèle avec ta vie à toi. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ?
Oui, clairement. Clairement, les plus belles rencontres que j'ai pu faire grâce à ce métier ont été ces rencontres où, face à moi, j'avais des hommes et des femmes qui avaient réussi à vraiment révéler ou exprimer ou faire ce qui les animait vraiment au fond d'eux, alors que, mon Dieu, leur contexte de vie ou leur contexte d'actualité là, du moment avait rendu les choses hyper et tellement difficiles. Et ça peut être autant dans un contexte social... Ça peut être dans le cadre de fermeture d'entreprise, où là on se retrouve à côtoyer des hommes et des femmes qui se sont battus pour cette entreprise, qui ont donné leur meilleur, et puis qui se retrouvent du coup du jour au lendemain, là ça s'arrête, et comment on joue ça, comme des personnes qui se retrouvent à la rue alors qu'a priori elles avaient tout juste avant, mais là encore le destin ou l'actualité les rattrape et ça devient compliqué. Et dans le témoignage, elle continue à révéler ce qu'il reste encore de plus important pour elle, et puis à préserver cette dignité. C'est des reportages, je me souviens aussi de reportages que j'ai faits en mer, où là, je pars avec des marins pêcheurs. Évidemment, le quotidien, il est plus que difficile. Et je me souviens, il me voit arriver, jeune femme, sa caméra, bon, ok, on va voir comment ça va se passer sur le bateau pendant une journée entière. Et ça fait partie aussi de mes plus beaux reportages et mes plus beaux souvenirs, parce que pendant tout le temps où je suis sur le bateau avec eux, il y a cette première approche qui est un peu difficile, ils ne se révèlent pas forcément, donc je ne vois que justement le contexte compliqué de leur vie. Et puis tout doucement, en fait, à force, au gré de la confiance qui s'installe, au gré de la relation d'authenticité, parce que comprennent aussi ce pourquoi je suis là, vraiment juste raconter leur histoire et ce qu'il y a de plus beau en eux, ben justement, ils commencent à se révéler. Et puis là, c'est des personnages absolument incroyables qui se révèlent, avec des gens qui sont passionnés, qui ne pourraient pas faire autre chose que ça, malgré les difficultés, avec un papy, je me souviens, qui avait 70 ans, qui est encore sur le bateau, et qui ne me parle pas au départ, et puis à la fin, en fait, je reste collée à lui, parce qu'en fait, il n'arrête plus de parler de son parcours de vie et qu'il est incapable de lâcher le bateau de son fils. En fait, il a besoin d'y retourner tout le temps. C'est tous ces parcours de vie là où ce qu'il y a de plus beau chez tous ces hommes et ces femmes qui nous permettent, en plus de côtoyer, parce qu'ils ouvrent leur cœur, malgré des contextes parfois de vie, d'activité, de travail qui sont compliqués, en fait. Et comment, comment on fait avec tout ça, quoi.
À ce moment-là, voilà, tu étais dans quelque chose de positif, tu étais là où tu devais être, comme tu l'as dit. Et un jour, le revers du boomerang, comme tu me l'avais qualifié, revient et le formatage, les phrases négatives de ton enfance font écho un petit peu dans ta carrière professionnelle parce que l'audiovisuel se transforme un petit peu. Est-ce que tu peux m'expliquer ces changements, comment ça arrive et ce que tu ressens à ce moment-là ?
En fait, au bout de quelques années d'activité, après un peu plus de 10 ans, l'univers des médias évolue aussi et les chaînes d'information commencent à pousser à droite et à gauche et à générer aussi une vraie concurrence sur le marché audiovisuel de l'actualité, du traitement de l'information et commence à impacter y compris un média national dans son propre fonctionnement en fait. Quand du jour au lendemain, des chaînes d'information se créent et avec sur le terrain un déploiement d'équipes assez conséquent, mais des équipes qui se résument à un seul homme ou une seule femme, de fait, notre schéma de fonctionnement à nous s'en trouve perturbé. Et assez, de façon assez insidieuse au départ, mais finalement, graduellement, le rouleau compresseur commence à s'installer. On nous fait aussi comprendre que, écoutez, en face, pour la même actualité, ils étaient tout seuls à la traiter. Est-ce qu'il est encore pertinent d'être à trois, une équipe de trois, pour couvrir l'actualité ? Alors, évidemment que oui, en fait, c'est pertinent de couvrir à trois une actualité parce qu'à trois, on a un regard différent, parce que tous les trois, on a une compétence bien spécifique à travers la manière dont on va raconter le reportage avec l'image, à travers le son, au milieu d'une mêlée, d'une manifestation, cette petite phrase essentielle d'un témoignage d'une personne, si j'ai pas le preneur de son pour aller la chercher, moi je pourrais jamais la raconter aussi bien cette histoire en fait. Et puis parce qu'à trois, encore une fois, on a un regard et une analyse et un retour, même dans la voiture quand on en parle, sur la manière dont on veut raconter l'histoire en fait. Donc c'est encore plus pertinent et ça permet d'avoir aussi une neutralité, un questionnement qui a toute sa place. Donc oui, les équipes à trois ont toute leur place, mais dans un contexte économique, on y arrive. De façon rationnelle, si on met des chiffres, en face, ils arrivent malgré tout à relayer une information qui n'est peut-être pas de même qualité et pour autant, elle passe auprès des téléspectateurs aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Équipe à trois ou pas ? Et tout doucement, on passe d'équipe à trois à équipe à deux. C'est un moment qui est très difficile pour moi à vivre parce que je me retrouve aux côtés de collègues preneurs de son qui ont un talent inouï, qui sont passionnés comme moi par leur métier et à qui tout doucement on dit non, sur ce coup-là, ça sert à rien d'y aller, équipe à deux, ça va suffire. Je suis là en fait. Oui, mais non, écoute, ce sera plus simple, on y va à deux. Ok, donc je me retrouve moi aussi du coup à devoir récupérer, à gérer le son, ou comme le journaliste rédacteur, surtout à gérer le son. Donc on fonctionne différemment, mais on sent que la qualité ne sera pas la même à la clé. Et puis on passe de 3 à finalement parfois même à 2, et puis parfois même à 1. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on dit écoute, sur ce coup-là, tu peux peut-être y aller toute seule en fait. Tu vois, au niveau de l'interview, comment le cadrer, etc. Oui, mais enfin ça, je l'ai vécu quand j'ai démarré ce travail il y a 15 ans. Donc en fait, et pour moi, c'était pas source de progrès, au contraire, quoi. Donc, non, je vais pas y aller toute seule. Écoute, là, techniquement, de toute façon, ça va être difficile de faire autrement parce qu'il n'y a plus personne. Les autres sont partis justement sur d'autres bouts de reportage. Et tout doucement, le quotidien va passer de... On raconte une vraie histoire, on prend le temps avec ces personnes et on est à trois. Écoute, tu vas faire juste un petit bout de sujet pour cette thématique-là, et puis une autre interview à tel autre endroit. Donc je n'ai plus la globalité de l'histoire à raconter. Et puis surtout, si tu peux y rester qu'une demi-journée, parce qu'après tu vas être sur un autre reportage, donc je n'ai plus non plus la qualité au niveau du temps, et ce temps qui était essentiel aussi pour nous et pour moi, pour aller capter le vrai, l'authenticité du message en fait. Et ça on n'a pas une relation de confiance qui s'installe en une heure en fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'aller voir ce que la personne a vraiment besoin de nous dire et de partager. Et ça, donc tout doucement, je me retrouve frustrée d'un compagnon de voyage qui a absolument un talent incroyable, qui a des choses à raconter à travers le son, mais finalement, qui n'a plus sa place. Je me retrouve frustrée de cette qualité du temps qu'on avait, qui était indispensable et que je n'ai plus. Et donc, je ne suis plus au contact de ce qui, moi, me nourrissait ce moment de vrai, de relation avec les gens qu'on interviewait. Et à un moment donné, c'est un métier qui est passionnant, mais qui est aussi particulièrement prenant et impactant pour sa vie sociale et pour sa vie familiale. Et quand tous les jours, on ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain, alors qu'à la maison, entre-temps, on a des enfants qui, eux, sont hyper millimétrés, on se retrouve à se demander certains soirs, « Ah non, mais là, je commence à avoir un rythme de folie. » Et la compensation, elle n'y est plus, en fait. Avant, j'y avais du sens dans ce relationnel que j'avais avec les gens. On me donnait du temps, on avait des moyens humains, on était en équipe. Là, je me retrouve sur des petits bouts de sujet, parfois y aller tout seul. Et en fait, non, c'est pas comme ça que je voulais raconter les histoires de tous ces hommes et ces femmes, quoi. Et puis en plus, pendant ce temps-là, ça impacte ma vie familiale, ma vie et ma vie privée. Et à la fin, en fait, au fil du temps, on s'épuise. Donc il y a ce côté, on nous prive de ce qui est important pour nous. On nous prive de nos valeurs, de nos compétences. Elles sont là, mais on nous empêche de pouvoir les exprimer. Et ça, c'est particulièrement difficile pour moi à vivre, ouais.
Et donc, c'était difficile pour toi, tu étais frustrée, comme tu l'as dit, mais pour autant, tu te disais, ça va passer.
Ouais, c'est-à-dire que les trois dernières années, qui sont certainement celles où je vais au travail de plus en plus par culons, mais certains jours pas loin, eh ben, j'y retourne quand même, et je me dis, écoute, non, ça va passer. Ça va passer. Là, il y a tout le conditionnement avec lequel j'ai grandi qui est ma famille a connu pire. Ils ont eu des contextes d'emploi, de travail qui a été compliqué. Donc non, tu vas pas te plaindre. Allez, tu continues quoi. Donc je continue. Et puis au-delà de ce conditionnement, en fait, je continue parce que je suis bourrée de peur à l'idée de quitter ce métier et à l'idée de l'après. Pourquoi je suis bourrée de peur à l'idée de quitter ce métier ? Parce que si je quitte ce métier, au fond de moi, j'ai le sentiment qu'on ne va pas forcément me comprendre. Au fond de moi, j'ai un ressenti qu'on va peut-être moins m'aimer, qu'on ne va pas me comprendre dans cette décision. Parce que ce métier, c'est aussi quelque part une fierté pour ma famille, etc. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens à ce moment-là. Et donc, je m'interdis de partir par peur de décevoir les autres, donc par peur du regard des autres. Et donc là, j'y reviens, ce regard des autres, qui était finalement resté en toile de fond, en profondeur. Je m'interdis de partir par la peur de l'insécurité que ça peut représenter, parce que justement, j'ai connu un quotidien financier qui était compliqué. Et donc, pendant 3 ans, je vais retourner malgré tout à ce travail, mais en étant complètement en mode contre-nature, en fait. À l'intérieur de moi, je ne peux plus, je ne suis plus du tout nourrie, ça va à l'inverse de tout ce que j'ai besoin de vivre. On est trop empêché à l'intérieur de faire ce qu'on a besoin de faire, la manière dont on peut le faire. Et puis, je suis empêchée aussi dans ma tête de pouvoir en plus en partir. Donc, il y a ce truc-là qui est compliqué. Je crois qu'il est temps que j'en parte et pour autant, je m'interdis de le faire. Tension extrême.
Et justement, cette tension va créer quelques symptômes chez toi. Il y en a certains qui vont commencer à apparaître. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns ?
Ouais. Ce qui est... Donc du coup, la nature est bien faite et puis surtout notre corps est bien fait. Moi, ça faisait déjà quelques temps en fait, passionnée par l'humain, passionnée du coup aussi par son fonctionnement. Donc moi, ça faisait quelques temps que j'allais glaner à droite et à gauche des formations, des informations, des trucs autour du développement personnel et comment mieux se révéler, comment être plus heureux dans sa vie, etc. etc. Et donc j'étais d'autant plus attentive aussi à mon propre fonctionnement, à moi. Et ce que je constate assez rapidement durant ces 3 dernières années, c'est que mon corps commence à émettre des signaux. Je le constate, mais ce n'est pas pour autant que je fais quelque chose pour que ça change. Et parmi les signaux, alors psychologiquement, je me sens être moins joyeuse. Je me sens être moins joyeuse. Je me sens être plus distraite aussi, moins présente, moins concentrée. Il y a plein de moments de vie que je vis en famille ou au travail où je suis là, mais au fond de moi, je ne suis pas vraiment là, en fait. Parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas, il y a une espèce de brouillard qui commence à s'installer. Et sur les derniers mois, j'ai régulièrement des trous de mémoire. J'inverse des mots dans les phrases. Et ça faisait beaucoup rire mes enfants. Et d'ailleurs, après coup, on en rigole. Mais maman, t'as vu ce que t'as dit? Je dis quoi? Non, mais t'as inversé le mot, en fait, t'as dit ça au lieu de dire ça. Écoute, non, je m'en étais pas rendu compte. En fait, je constate de plus en plus que mon cerveau ne fonctionne pas correctement. Il y a des symptômes aussi physiques qui s'installent de façon très insidieuse, mais qui s'installent vraiment. J'ai des douleurs très, enfin, chroniques au niveau du dos, au niveau des épaules. Donc, certes, je porte une caméra. Mais c'est des douleurs, j'ai beau les soigner, être accompagnée autour de ça, en fait, elles reviennent systématiquement. J'ai un sommeil qui n'est pas forcément très très bon. Et puis surtout, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que je retourne sur mon lieu de travail, à l'intérieur, dans mon corps, il y a un truc qui se fige en fait. C'est comme s'il y avait un mécanisme à l'intérieur de moi qui se met en place. Je ne sais pas si c'est une armure, mais il y a un truc qui est hyper lourd et qui me fige et qui m'enferme. Et je me souviens, il y a un couloir dans lequel je passais, avec une vue assez lointaine en fait sur le quartier, un peu Paris au loin. Et il m'arrivait parfois de m'arrêter dans ce couloir, de regarder au loin et d'avoir un ressenti d'enfermement absolument incroyable. Et là, je me sentais vraiment mal. Et pour autant, je me disais, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas normal? Pourquoi t'es dans cet état-là? Donc, j'osais pas pousser le questionnement au-delà. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça va passer. Et donc, régulièrement, je me disais souvent cette phrase, écoute, franchement, tes parents, ta famille, elle avait vraiment vécu pire, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, et en fait, ça passe pas.
Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.